Et c'est l'heure, à 16h46, du bullshitomètre. Je crois qu'il y a un petit jingle pour le bullshitomètre. Et c'est Charles Monod qui fait son entrée. Bonjour Charles Monod, merci d'être avec nous, président de Monocle Asset Management. Bon, vous êtes là pour déconstruire une idée reçue, c'est le principe du bullshitomètre.
Oui.
Et ce que vous déconstruisez aujourd'hui, c'est l'idée reçue selon laquelle il y a plein d'opportunités dans les obligations d'entreprise.
C'est ça.
Ouais. Pourquoi est-ce que vous voulez démonter ça? Pourquoi est-ce que c'est bullshit pour vous de dire ça?
En fait, on a passé tellement d'années avec des taux à zéro que maintenant, quand on voit un truc à 5%, on trouve ça fantastique.
Ouais.
Mais que sur les obligations d'entreprise, il faut toujours réfléchir en spread, c'est-à-dire l'écart entre les obligations d'État, les obligations sans risque et les obligations d'entreprise. Et sur cet indicateur-là, on est à 2,80 aujourd'hui sur les obligations à risque, et 2,80 c'est relativement bas sur l'historique. Donc en fait, on est attiré par des niveaux plus hauts, parce qu'on les voit affichés sur l'écran, mais on oublie que les taux d'intérêt sont en fait plus hauts partout.
Ouais.
Et donc on n'a pas cette opportunité qu'on voit aujourd'hui dedans, qu'on voit annoncée sur quelques titres, et qui me paraît un peu dangereuse et urgent de remettre en contexte.
Mais les obligations d'entreprise dont vous parlez, c'est quoi? C'est de l'investment grade, c'est du high yield, les deux en même temps, c'est quoi? Vous regardez quoi en particulier pour dire ça? Vous appuyez sur quoi?
Pour vous donner deux exemples, si vous prêtez aujourd'hui à une société comme LVMH, par exemple, vous gagnez sur, je crois que c'est 6-7 ans, vous gagnez 0,80 de plus que sur une obligation d'État.
Ouais.
C'est pas non plus énorme, quand même. C'est pas non plus gigantesque par rapport à quelque chose de vraiment sans risque. Et si vous prenez quelque chose de beaucoup plus risqué, une société comme Elis, par exemple, qui a pratiquement qui a une capitalisation beaucoup plus petite, qui n'a rien à voir en termes de taille et beaucoup de dettes, vous gagnez 1,30%. C'est-à-dire que vous avez juste 0,50% de plus par an.
Oui.
Pour prendre quelque chose de beaucoup plus risqué. Je pense qu'en tant qu'investisseur, on n'est pas tellement rémunéré. Et quand le marché vous offre ce genre de conditions-là, c'est bien de dire je passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme au poker, quand vous avez un petit jeu pas terrible, c'est bien de dire je ne joue pas.
D'accord. Julien.
Mais cette prime de risque, qui donc pour vous est trop faible, du coup, Charles, on est bien d'accord.
Ouais.
Vous la voyez se tendre, vous la voyez s'élargir, vous la voyez évoluer comment à moyen terme?
On est quand même dans un contexte économique complexe. Voilà, dont on n'a pas forcément vu toutes les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et on n'a pas eu de stress depuis très longtemps. Donc plein de choses ont changé, la nature humaine pas tellement. À un moment, il devrait y avoir un peu de stress. Et quand il y aura du stress, ces taux remonteront, ces spreads en tout cas remonteront beaucoup. Cette prime de risque remontera beaucoup. Et si on veut jouer la baisse des taux dans l'autre sens, dans ce cas-là, si on se dit c'est sûr que les taux seront plus bas dans quelques années, ce qui est possible, dans ce cas-là, c'est mieux de le jouer directement avec les obligations d'État où on n'aura pas ce risque sur les spreads en fait.
Le stress dont vous parlez sur les obligations d'entreprise corporate, c'est dû à quoi? Aux difficultés qu'auront certaines à compter de l'an prochain, par exemple, à rembourser leurs intérêts de dette? Il y a un mur de la dette qui arrive là pour.
Oui, forcément, parce que tout le monde s'est refinancé au même moment où c'était quand c'était Noël, quoi. On a eu un espèce de grand Noël en 2020-21, là, donc tout le monde s'est refinancé, mais l'échéance va arriver pour tout le monde à peu près en même temps, c'est 4-5 ans. Donc on commence à arriver dedans là, et il faut espérer que tout aille bien, quoi. Voilà. Si on a une demande un peu moins forte à ce moment-là et des taux d'intérêt qui ont été plus élevés, il peut y avoir un effet de ciseau qui soit assez difficile. Et en tout cas, tout ça, c'est pas dans les prix.
Mmh. Oui, mais Charles, si je peux le permettre, vous dites quand même qu'il y a plus de choses à chercher sur le souverain à l'heure actuelle. On a une Allemagne qui vend rien, en fait, aussi.
Je dis pas forcément qu'il y a plus de choses à prendre sur le souverain. Je dis que si vous voulez jouer la baisse des taux, c'est mieux de le faire directement au souverain.
D'accord, mais
parce qu'en plus, si demain il y a un gros accident sur le souverain, ça baissera, les taux baisseront, donc les obligations monteront. Tandis que sur les obligations d'entreprise, surtout celles qu'on va aller chercher un peu à risque, celles-là, on se prendra les primes de risque qui montent dans l'autre sens et ça, on baissera. Donc on est mieux dans ce scénario-là. Mais après, je pense que c'est une chance sur deux que c'est intéressant d'aller chercher des choses sur le souverain.
D'accord, parce que j'allais vous dire quand même, l'Allemagne, elle n'émet pas beaucoup d'obligations finalement. Ouais. C'est pas facile d'en acheter sur le marché secondaire. Les États-Unis, on n'en parle pas tant que ça, mais il y a quand même un mur de la dette qui se profile et qui commence tout doucement. Je ne sais pas si ça vous inquiète ça d'ailleurs, mais finalement, sur quoi on se positionne comme obligation souveraine?
Très difficile, très difficile. Il y a eu des. Le contexte est très, très compliqué, quoi. On ne sait pas exactement.
Vous êtes pessimiste sur ce qui est en train
prudent,
de se passer.
Prudent. Toujours un peu prudent.
Et vous l'êtes d'autant plus depuis le week-end dernier, vous l'êtes d'autant plus? Ça renforce votre prudence ou vous vous disiez on peut avoir des surprises quand même
en termes de risque. On est en train de parler d'obligations souveraines. C'est certain que les résultats des élections la semaine dernière, il amène plus de risques parce qu'il y a une dispersion plus forte et des scénarios beaucoup plus larges, des scénarios qu'on pensait très peu probables, plus probables, qui amènent plus de dispersion forcément. Donc je pense que c'est bien d'être prudent et surtout on peut prendre du risque, on peut prendre des gros paris quand on sait qu'on est bien rémunéré en face.
D'accord.
Tout le problème des obligations, c'est que si j'ai raison, je gagne ça, si j'ai tort, je perds ça.
Donc plutôt les actions.
Jamais perdre de vue cette.
Plutôt les actions, même si les marchés boursiers ont été malmenés ces deux derniers jours, risquent encore de l'être à l'approche des législatives françaises.
En action, il y a toujours plus de dispersion en fait.
Ouais.
Donc il peut y avoir des choses qui soient très sous-valorisées ou des bonnes opportunités d'investissement par rapport à d'autres très valorisées. En obligation, c'est un peu on ou off, quoi.
Vous pouvez nous donner des exemples de type de valeur, si vous n'avez pas le droit de donner des valeurs, des actions.
Non, en action.
De ce que vous avez en portefeuille, justement, dans cette période assez incertaine, quand même.
Alors là, j'ai écrit un petit papier sur un truc très marrant, très intéressant, qu'on a en portefeuille, donc je le disclose, que ce soit précis. Il y a une boîte passionnante qui s'appelle Aurora, qui a été montée par trois types qui sont l'ancien responsable de la conduite autonome chez Google, l'ancien responsable de la conduite autonome chez Tesla et l'ancien responsable de la conduite autonome chez Uber. Donc, vous avez quand même des mecs assez
c'est les Avengers de la conduite autonome, quoi.
Voilà. Et ils sont montés sur... Ils ont au capital Uber, Amazon et Toyota. Et ils sont mis sur un seul créneau, les camions poids lourds américains autonomes, avec des bases d'un côté des États-Unis et à l'autre. Et donc le camion conduit totalement en autonome. Ils ont fait 1,5 million de miles parcourus en mode totalement autonome.
Oui.
Et quand il arrive dans la base, là un pilote humain, un chauffeur normal à l'ancienne, vient, arrive et prend le relais. C'est très important aux États-Unis parce que le trafic poids lourd aux États-Unis est un extrêmement important dans l'économie américaine. Et en plus, vous avez une pénurie totale de chauffeurs. C'est-à-dire l'âge des chauffeurs, en fait, prend 10 ans tous les ans parce qu'il y a plus de jeunes chauffeurs qui veulent arriver sur ce secteur. Donc ils ont absolument besoin de le remplacer par système autonome.
Aurora, valeur américaine que vous détenez.